17e édition du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, Felipe 2019. Piller, brûler, surexploiter, raser. Comment défendre la forêt? Une table ronde avec Gaspard Dalens, Marjolaine Boitard, Cécile Lebas, Joël Zask et Benoît Monange. Une table ronde organisée avec la Fondation de l'écologie politique.
Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Merci à vous d'être venu nous rejoindre en ce dimanche après-midi dans cet univers très urbain, dans cette salle noire, dans cette boîte noire un peu, on pourrait dire, pour parler d'un environnement très différent, celui de la forêt. On est très heureux au Festival du Livre et de la Presse d'Écologie de pouvoir accueillir un très beau panel aujourd'hui pour parler de la forêt. Je vais vous présenter rapidement les intervenantes et l'intervenant. Et puis, après, on va leur laisser à peu près 10-12 minutes chacun pour présenter un peu leurs travaux. Et après, on pourra avoir un échange, comme on a l'habitude de le faire sur le festival. Je vais vous les présenter très rapidement dans l'ordre de passage qu'on a convenu ensemble. Alors tout d'abord, Gaspard Dalens, qui est journaliste à Reporter, mais qui auparavant a traîné son écologie des couloirs parquetés des instances gouvernementales jusqu'au terrain boueux de nos campagnes, en passant donc par les forêts, et qui a commis plusieurs livres, notamment Les Néo-Paysans en 2016, je crois, avec Lucille Leclerc. Ensuite, un ouvrage sur Bure avec, je rappelle le nom de ton co-auteur, Andrea Fiori peut-être. Et le dernier ouvrage, Main basse sur nos forêts. Donc les trois sont dans la collection Reporter du Seuil. À côté de moi, vous avez Marjolaine Boitard, qui arpente aussi les chemins civicoles et jusqu'au trekking du Tadjikistan sur les terrains montagneux d'Asie centrale. Et elle a coécrit cet ouvrage qui s'appelle Agir ensemble en forêt aux éditions Charles-Léopold Meyer et qui est édité donc avec le RAF, le Réseau pour les Alternatives Forestières, auquel elle participe depuis plusieurs années. À côté d'elle, vous avez Cécile Lebas, qui est chargée de campagne forêt pour Greenpeace France. C'est elle qui organise notamment les actions que vous avez pu voir où les activistes de Greenpeace bloquent des cargos qui arrivent en France chargés de plusieurs dizaines de tonnes de tourteaux de soja. C'est grâce à elle que cela s'organise et c'est grâce à cela qu'on est content d'envoyer notre petit chèque à Greenpeace à la fin du mois. Elle n'a pas écrit, mais elle en quelque sorte fait partie de toutes les actions qui sont décrites dans ce livre sur Greenpeace qui s'appelle Une histoire d'engagement, qui a été écrit par David Eloy pour l'anniversaire de Greenpeace. Et David sera sur le festival un peu plus tard pour venir nous parler de son livre également. Et enfin, au bout de la table, vous avez Joël Zask, qui interviendra en dernière, non pas pour des raisons alphabétiques, hein, mais parce que s'il faut donner le mot de la fin, c'est toujours bien de le donner à une philosophe. Joël Zask, c'est la grande spécialiste française de John Dewey, mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions écologistes depuis quelques années, qui avait publié il y a 3 ans, à la découverte, un ouvrage qui s'appelait « La démocratie au champ », qu'on avait aussi beaucoup apprécié. Et donc cette année, cet ouvrage « Quand la forêt brûle », qui interroge voilà, ce phénomène des méga-feux, mais on peut dire que c'est aussi une manière d'interroger notre rapport à la nature et la sensibilité des hommes à leur environnement. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Gaspard. C'est ce qu'on avait convenu pour nous parler un peu de l'enquête qu'il a menée dans son livre et de l'état de la forêt française actuellement.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc oui, j'ai mené une petite enquête l'année dernière dans les massifs forestiers français parce que ça me paraissait très important alors que les projecteurs sont souvent tournés sur les feux d'Amazonie ou sur les plantations d'huile de palme en Indonésie, enfin à l'autre bout de la planète, de voir un peu comment ce qui se passait en France. Alors évidemment, en France, on n'est pas face à une forme de déforestation, enfin les problèmes sont complètement différents, mais il y a quand même des problématiques assez graves, en tout cas des questions à soulever, et notamment, en fait, on pourrait le résumer ainsi. La forêt ne souffre pas de déforestation en France, mais d'une forme de malforestation, comme on parle dans l'agriculture de malbouffe, c'est-à-dire une nourriture en abondance, mais en fait une nourriture de piètre qualité. Et c'est un peu la même chose en France, en fait. On possède 30% de notre territoire national est composé de forêts. 16,9 millions d'hectares, donc c'est énorme, c'est une surface conséquente, mais ces qualités se dégradent et ces écosystèmes sont malmenés par une forme de sylviculture industrielle qui est en train d'avancer. Et on est un moment d'intensification en fait de l'industrialisation de nos forêts. Et c'est ça que j'ai voulu décrire à travers cette enquête Main Basse sur nos forêts, en allant notamment dans des massifs forestiers qui sont assez abîmés, comme le Morvan, comme le Limousin ou les Landes, où on est vraiment dans ce phénomène de sylviculture industrielle. Dans le Morvan, il faut imaginer que c'était avant tout une forêt de feuillus. Et aujourd'hui, on est autour de 50% de monocultures résineuses à majorité du Douglas. Donc, on coupe tous les 35 ans et qu'on moissonne comme du blé. Ce ne sont plus vraiment des forêts, mais des champs d'arbres. Donc ça, c'est notamment la situation dans le Morvan. Alors, cette sylviculture industrielle, elle n'est pas récente. Elle a commencé, on pourrait dire, après la Seconde Guerre mondiale, massivement, avec notamment le Fonds forestier national. Il faut imaginer que le premier directeur de l'ONF dans les années 70 Christian Delaballe disait déjà, il faut créer partout une obsession de la productivité. Michel Cointat, qui était aussi ministre de l'Agriculture, affirmait que dès qu'on peut faire de l'argent en forêt, ben on peut traiter la forêt comme un champ de tomates ou un champ de patates. Donc voilà, cet état d'esprit productiviste, il est là depuis déjà des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on est dans un moment d'intensification du fait, en fait, d'une extrême mécanisation, en fait, d'une mécanisation qui commence à s'intensifier depuis la fin des années 90. Après la catastrophe, en fait, la tempête de 99, beaucoup de machines sont arrivées dans nos forêts pour ramasser le bois qui était tombé. Et depuis, elles sont restées. Il a fallu alimenter ces machines. Et donc, vraiment, on a un pic d'intensification dans ces années 90 et aussi année 2010 avec, paradoxalement, et on pourra y revenir, le Grenelle de l'environnement et le développement des usines à biomasse pour produire de l'électricité. Donc voilà, moi, j'ai voulu décrire un peu ces réalités-là à travers la France qui sont aussi assez peu méconnu, c'est ça qui me paraissait important. Il y a vraiment un paradoxe entre, d'un côté, on sent l'amour des arbres qui grandit, des best-sellers très forts, comme celui de Peter Volleben, qui a été vendu quand même à 1 million d'exemplaires en France, donc aussi des travaux scientifiques comme ceux de Francis Allais, qui montrent l'intelligence des arbres, enfin la question de la mémorisation des arbres, leur capacité. Et en même temps, il y a une forme de dépossession de nos forêts. On ne sait pas du tout comment elles sont gérées. Et donc voilà, je voulais soulever un peu ce paradoxe-là dans mon livre et appeler justement à se réapproprier ce bien commun qui constitue une part non négligeable de notre territoire national.
Justement, face à ce constat de la malforestation et tous les problèmes qui en découlent, notamment le RAF et dans ses travaux, a essayé de développer des alternatives et de voir comment on pouvait gérer la forêt de manière différente. Donc je vais passer la parole tout de suite à Marjolaine pour qu'elle nous explique un peu son travail, le travail de terrain qu'elle a fait pour aller voir les communautés qui géraient différemment la forêt et ce qu'on peut en tirer comme enseignement.
Eh ben, merci Gaspard pour cette super introduction. Alors moi, je suis arrivée au Réseau pour les alternatives forestières en 2014, je crois. Pour l'idée, au début, c'était de faire un mémoire, parce que j'étais encore à la fac, sur la propriété collective de forêt. parce qu'on se disait que si on était propriétaire collectivement de forêts à grande ou moyenne échelle, ça permettrait de préserver un peu la forêt en France. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, la propriété collective en forêt, c'était aussi la propriété des banques ou des grandes sociétés qui investissaient énormément en forêt en ce moment. Et donc là, on s'est dit, ah, mais en fait, c'est pas que la propriété collective qui va permettre d'avoir des décisions collectives en forêt, c'est aussi de soutenir les personnes qui font déjà des choses en forêt. Ce n'est pas que les propriétaires, mais il y a aussi des bûcherons, des débardeurs, ceux qui sortent le bois de la forêt, des charpentiers, les personnes qui se chauffent avec du bois de chauffage, qu'en fait, il y a une myriade d'acteurs en forêt et que c'est ces personnes-là aussi qu'il faut soutenir. Et c'est aussi le principe du réseau pour les alternatives forestières, c'est de soutenir des acteurs, des actrices qui font déjà des choses en forêt. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ne pas faire juste qu'un mémoire universitaire, qui est déjà très bien, hein, mais de faire un guide méthodologique et pratique sur, en fait, si on veut être une actrice ou un acteur en forêt, du bûcheronnage, du débardage, faire son bois de chauffage, être charpentière, charpentier, en ayant du bois local, que ce soit possible. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune ressource pour faire ça, en fait. C'est très méconnu. On ne sait pas comment... c'est rare, en fait, de savoir où se procurer du bois local, qui a été en plus poussé, qui a été poussé, je ne sais pas, non, enfin, qui a poussé seul, hein. Mais dans des circonstances respectueuses de l'écosystème forestier, qui ne vient pas d'une malforestation, par exemple. Donc ça, c'est très difficile. Donc c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire dans ce guide, et qu'on allait aussi faire tout un panel sur comment devenir propriétaire forestier. Et on axe beaucoup sur la propriété aussi, parce que le droit forestier en France, de propriété forestier, est extrêmement permissif. Il a très peu changé depuis l'avènement du Code civil de 1804. Donc en gros, on est propriétaire forestier et donc on a tous les droits sur la forêt. Abusus, usus, fructus. C'est-à-dire le droit d'en abuser, d'en user, d'en jouir. Par exemple, si on est propriétaire agricole, d'un terrain agricole, depuis la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des obligations de mettre ces terrains à louer pour qu'ils puissent être productif pour des denrées alimentaires et autres, avec le bail rural par exemple. En forêt, il n'y a pas de sorte de bail forestier. Les bûcherons qui travaillent en forêt, en fait, n'ont que des contrats de chantier, ils ont des devis. Donc ils viennent en forêt, ils coupent des arbres et ils repartent. Donc le côté paysan qui pourrait sauvegarder la forêt, c'est-à-dire d'avoir un lien long à la forêt, comme un paysan peut avoir un lien long à sa terre, et donc il va essayer de l'entretenir au maximum pour pouvoir avoir des denrées au fur et à mesure des années. Il va pas saccager sa terre d'une année sur l'autre, enfin, même si ça se passe un petit peu, évidemment. Mais en forêt, si on coupe sa forêt, si on fait une coupe à blanc, l'année suivante, on n'aura plus de forêt, donc ça devient bizarre. Sauf que là, c'est les propriétaires qui ont tous les droits, et en fait, aujourd'hui, la propriété est énormément morcelée en forêt. 4/5 des propriétaires forestiers ont moins de 4 hectares. Donc 1/5 des propriétaires forestiers ont plus de 4 hectares. Et c'est des grandes familles, c'est des grandes banques, enfin c'est très, il y a beaucoup de spéculation. Donc nous, on s'est dit, on va agir sur la propriété aussi, en encourageant la propriété forestière collective. Ça existe déjà, il y a des groupements forestiers. Donc c'est plutôt des sociétés civiles où on va acheter des parts sociales à plusieurs pour être propriétaire de forêts et pour décider ensemble de ce qui va se passer dans les forêts dont on est propriétaire. Il y a aussi des associations. On peut aussi être propriétaire par un statut associatif ou par un statut de fonds de dotation, par exemple. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas de part sociale. Il n'y aura pas de nécessaire rentabilité, mais ça sera plutôt quelque chose de... Bah, comme une association, quoi. Donc de propriété sur le temps long, et c'est ça qu'on souhaite au RAF. On a créé un fonds de dotation qui s'appelle Forêt en vie, et donc l'idée, c'est de garantir la propriété. Donc la propriété sera d'un côté, elle est d'un côté, on est propriétaire forestier sur le temps long, grâce à des dons, vous pouvez tous donner si vous le voulez, c'est encouragé. Et par contre, le fonds de dotation fait un bail de long terme, parce qu'il n'y a pas de bail forestier qui existe, mais nous, on en a créé un, le bail forestier, de long terme, à des personnes, des bûcherons, des charpentiers ou des collectifs qui veulent préserver la forêt. On fait un bail de temps long à ces personnes-là pour qu'elles puissent agir en forêt selon la charte du RAF, qui est une charte évidemment respectueuse de l'écosystème forestier et des savoir-faire locaux. En fait, j'ai envie de parler de plein de choses, mais j'ai l'impression que le temps est assez restreint. J'ai encore combien de temps ? Super. Moi, il y a une des choses qui m'a passionnée dans ma recherche là au RAF, c'était bizarrement, c'était le bail rural, le contrat de travail. Il n'y a pas de contrat de travail en forêt de temps long, comme je vous l'ai dit rapidement, c'est que des contrats de chantier pour les bûcherons. Les contrats de temps long, ça sera plutôt pour les grandes scieries ou les grandes coopératives forestières qui, elles, peuvent peuvent garantir l'approvisionnement en bois. Donc ça, pour garantir l'approvisionnement sur plusieurs années, c'est possible. Ou sur la gestion forestière aussi, ça c'est aussi possible. Et donc, on s'est cassé la tête avec une juriste, enfin avec deux juristes, sur dire comment on pourrait créer un bail forestier qui puisse garantir aux bûcherons et aux débardeurs d'intervenir sur une forêt dans le temps long, pour avoir aussi un revenu garanti pour eux, pour avoir une ressource belle, en fait, et pour avoir du bois local. Et donc, on l'a créé. Et donc, on en est très. Enfin, c'est en cours de création, le bail forestier. Et on va le publier. Et donc, c'est quelque chose qui nous tient. Enfin, moi, qui me tient très à cœur, parce que c'est garantir la propriété d'un côté, qu'on ne va pas faire des coupes à blanc. Et d'un autre côté, de permettre à des gens d'avoir un revenu digne, d'avoir et d'être reconnu, en fait, socialement, dans ce qu'on fait. Et pour moi, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les forêts, sur. Oui, il faut préserver les forêts. Mais en fait, il faut aussi préserver les savoir-faire qu'il y a en forêt. Les savoir-faire qu'il y a en forêt et les savoir-faire qu'il y a avec le bois. Je vais reprendre mes petits chiffres. En 1945, le nombre de scieries. Donc, il y a une centaine de scieries qui disparaissent tous les ans. Voilà, 15 000 scieries en 1945. Il y en a 1500 en 2015 et on en perd... une tous les trois jours. Des scieries, donc, une scierie, on va dire, artisanale, en fait, peut couper du bois de diamètre gros, petit, de différentes essences. Et donc, aujourd'hui, l'État finance majoritairement ce qu'on appelle des méga-scieries. Donc, on parle des méga-feux, mais c'est aussi des méga-scieries. Et il n'y a aucune honte à dire méga-scieries. Enfin, on va faire des méga-scieries. Et donc, c'est largement subventionné. Et donc, les méga-scieries ne peuvent couper que du bois 30 à maximum 50 cm de diamètre. Donc, comme l'a dit Gaspard, c'est des bois qui ont été coupés à 30 ou 40 ans maximum, plutôt du résineux, pour faire de la palette ou autre chose. Hein, c'est ça. Donc, le beau bois ou des tables de ce genre-là. Donc voilà, on dit « Ah, c'est du bois, c'est chouette », mais de quel bois on parle, en fait ? Et donc, quel artisanat, quel savoir-faire on veut préserver ? Et donc, c'est toute la chaîne, en fait, qu'il faut soutenir ou qu'il faut encourager ou qu'il faut reconnaître ce travail-là, des bûcherons, des débardeurs, des scieurs, mais aussi des charpentiers, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ce qu'on appelle d'ossature bois. Donc, ça sera... des fois, on voit ça sur... Si vous habitez en province, comme disent les Parisiens, on peut voir sur le bord des routes des fermettes, donc des ossatures pour faire des maisons, en bois, je sais pas, de 30 cm, vraiment petits, jeunes fluo qui ont été bien traités. Et donc, au lieu de mettre deux ou trois structures pour faire des maisons très grandes, on va en mettre 10 à la suite, parce que c'est du bois de très mauvaise qualité, qui est énormément traité, qui est garanti 10 ans, parce qu'au bout de 12 ans, ça va s'effondrer de toute manière. Donc, c'est aussi les charpentiers qu'il faut soutenir, de la charpente de qualité, en fait, avec du bois plutôt feuillu ou alors du gros Douglas. Et donc là, il y a dans notre livre aussi, on a référencé des charpentiers, des menuisiers qui se cassent la tête vraiment pour avoir de la ressource locale et de qualité pour faire de l'artisanat qu'ils aiment en fait et qu'ils veulent promouvoir.
Merci Marjolaine. Alors, je pense que ça fait pour le coup une bonne transition avec ce pourquoi se bat Cécile. Et donc, on a essayé de faire ce passage entre la malforestation française et la déforestation ailleurs dans le monde et les impacts sur la biodiversité, sur le climat qui découlent de cette déforestation et qui sont parfois aussi du coup le résultat de la manière dont on s'occupe de la forêt en France.
Bonjour à toutes et tous. Juste un petit mot, en introduction, comme tu le disais, donc moi je n'ai écrit aucun livre. En revanche, David Eloy du coup sera là, celui qui a écrit le livre sur les 40 ans de Greenpeace, à partir de 16h30. Et même si vous voulez pas acheter le livre, je vous encourage vraiment à discuter avec lui, parce que pour faire ce livre, il est allé glaner tout plein d'anecdotes qu'il raconte de façon hyper drôle. Donc vraiment, n'hésitez pas juste à aller discuter avec lui, parce qu'il a vraiment plein d'anecdotes sur l'histoire de Greenpeace, et notamment sur les luttes de Greenpeace contre la déforestation, mais pas que. Du coup, moi, mon idée, là, dans les 10-12 minutes qui me sont allouées, c'était de vous faire un petit tour d'horizon un peu de la déforestation dans le monde. Je voulais peut-être, dans un premier point, vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles il faut préserver les forêts, parce que ça peut être une posture, une question de valeur, mais on a aussi des arguments sur la biodiversité, le climat et tout ça, donc je voulais revenir un petit peu là-dessus. Après, dans un deuxième point, je voulais vous expliquer brièvement les moteurs, c'est-à-dire les causes de la déforestation dans le monde, et vous faire un petit focus par bassin forestier. Après, en troisième point, je vous dirai quelques mots du soja, qui est en effet le sujet sur lequel je travaille le plus et qui est vraiment le poids lourd quand on parle de l'empreinte forêt de la France. Donc, je vais vous dire un petit mot là-dessus. Et puis après, en dernier point, je vous dirai quelques solutions qu'à Greenpeace, on peut préconiser brièvement. Et on pourra revenir après en détail ultérieurement sur ces points-là si vous avez des questions. Du coup, sur le premier point et sur pourquoi c'est important de préserver les forêts, moi, je vais me concentrer sur les forêts tropicales. Donc, vous savez que dans le monde, il y a les forêts boréales qui se situent au nord du globe, donc Canada, Scandinavie, Russie. Il y a les forêts tropicales qui, comme leur nom l'indique, se situent dans la forêt intertropicale et qui représentent à peu près 45% des forêts du monde. Puis, vous avez les forêts tempérées, donc dont parlaient Marjolaine et Gaspard, notamment en France, et puis aussi un peu les forêts subtropicales. Et les forêts tropicales, ce sont les forêts qui sont les plus détruites à l'heure actuelle, dont le rythme de déforestation est le plus important, alors que c'est les forêts qui abritent le plus de biodiversité, qui stockent énormément de carbone et tout ça. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit focus là-dessus, et c'est pour ça qu'à Greenpeace, on se focalise aussi énormément sur la question des forêts tropicales. Donc il y a trois bassins forestiers tropicaux dans le monde. Le plus grand, évidemment, c'est l'Amazonie. Le deuxième, en termes de superficie, c'est le bassin du Congo, donc qui s'étend sur plusieurs pays, notamment République démocratique du Congo, Cameroun, Gabon. Et le troisième, c'est l'Asie du Sud-Est, donc Indonésie, Malaisie. Donc moi, je vais vous parler de ces trois bassins forestiers tropicaux. Du coup, sur mon premier point, sur pourquoi il faut préserver les forêts, il y a plusieurs arguments, évidemment. Le premier, c'est celui de la biodiversité. C'est très difficile d'avoir des estimations claires et précises sur la biodiversité qui est présente dans les forêts, parce qu'il y a une très grande part de la biodiversité qui n'est pas encore découverte. Mais en gros, on estime que les forêts représentent à peu près 30% de la superficie terrestre du globe, donc hors océan, 30%, et abritent 80% de la biodiversité terrestre hors océan. Donc il y a une biodiversité très importante, et dans les forêts tropicales en particulier, puisque pareil, c'est difficile d'avoir des estimations, mais en gros, on estime qu'il y a à peu près 2/3 de la biodiversité animale terrestre, hors océan toujours, qui se situe dans les forêts tropicales. Et en termes de biodiversité végétale, les forêts tropicales regorgent aussi de biodiversité végétale. Si vous prenez un hectare de forêt dans le bassin amazonien, il y a un inventaire forestier dans le bassin amazonien qui a été réalisé il y a quelques années. Si vous prenez un hectare, donc 100 mètres sur 100 mètres, vous allez trouver entre 100 et 150 espèces d'arbres différentes. Alors que dans une forêt tempérée, que du coup, moi, pour le coup, je connais moins bien, vous allez être en dessous de 10 espèces d'arbres par hectare. Donc, il y a aussi une biodiversité végétale très importante. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle il faut préserver les forêts, c'est le climat, évidemment. La déforestation est responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est les chiffres du GIEC, les experts du climat. 12% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a énormément de carbone qui est stocké. On a des chiffres aussi sur le carbone qui est stocké dans les forêts tropicales. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une forêt, quand elle est fragmentée, quand elle est détruite, quand elle est abîmée, c'est-à-dire quand on va couper des arbres à gauche, à droite, de façon anarchique, quand il y a une chasse qui est mal réglementée, par exemple. Ça, ce n'est pas forcément de la déforestation, mais c'est ce qu'on appelle de la dégradation forestière, c'est-à-dire qu'on abîme la forêt. Et quand on abîme la forêt, eh ben la conséquence, c'est que la forêt va moins bien séquestrer de carbone. Elle va moins bien séquestrer le carbone, va moins bien le stocker. Donc, c'est aussi, d'un point de vue climatique, important d'avoir des forêts qui sont en bonne santé. Ça, c'est brièvement sur le climat. Et la troisième raison, c'est évidemment les communautés autochtones et communautés locales qui vivent et dépendent des forêts. Le chiffre que donne l'ONU, c'est 1,6 milliard de personnes qui dépendent des forêts pour leur survie quotidienne
et à long terme. Et on estime qu'il y a à peu près 200 millions de personnes qui sont des communautés, qui appartiennent à des communautés autochtones qui vivent dans la forêt. Et en ce moment, bah, moi, je voudrais évidemment vous dire un mot de la situation au Brésil, sur la situation des communautés autochtones au Brésil, dont vous avez sans doute entendu parler. Il y a eu une délégation de leaders autochtones brésiliens qui est venue en France il y a une quinzaine de jours et qui témoigne vraiment d'une hausse des assassinats de leaders autochtones et d'une hausse aussi des incursions, des invasions en territoire autochtone depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, puisque Jair Bolsonaro a bien dit qu'il voulait développer l'agro-industrie en Amazonie. Et il avait dit aussi à propos des communautés autochtones qu'il ne laisserait pas un centimètre carré de plus aux communautés autochtones, alors qu'on sait que les territoires autochtones sont les territoires dans lesquels il y a le moins de déforestation. Donc si on veut préserver la forêt, reconnaître les territoires autochtones est aussi un bon moyen de préserver la forêt. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur pourquoi c'est important de préserver la forêt. Maintenant, deuxième point sur les moteurs de la déforestation dans le monde, donc je vais aller assez rapidement, mais on pourra y revenir. Très clairement, le principal moteur de la déforestation dans le monde, il est connu, c'est l'agriculture. On estime qu'il y a à peu près 80% de la déforestation dans le monde qui est due à l'agriculture. Donc on parle de faire des pâturages pour faire paître le bétail, on parle du soja, on parle de l'huile de palme, on parle aussi du cacao, de l'EVA. L'EVA, c'est donc pour faire du caoutchouc naturel. Ça représente à peu près 80% de la déforestation. Les 20% restants, c'est l'urbanisation, c'est l'exploitation de minerais, l'exploitation forestière et la création d'infrastructures, donc les barrages, les routes, les ports, voilà. Et si on fait un petit tour d'horizon par bassin forestier, en Amazonie, on pourra y revenir très clairement. Les principales causes de la déforestation, c'est les pâturages, donc la production de bœuf et la production de soja. Vous avez aussi un peu d'huile de palme, de canne à sucre, et vous avez aussi la création d'infrastructures routières et d'infrastructures de fret pour exporter le soja vers la France, vers l'Union européenne, vers la Chine. Ensuite, si on regarde en Asie du Sud-Est, là, c'est le secteur des plantations industrielles qui est le principal moteur de la déforestation. Donc, on parle des palmiers à huile, donc l'huile de palme. On parle de l'EVA, donc le caoutchouc naturel, et puis la pâte à papier. Ça, c'est les principales causes de la déforestation. Et ensuite, si on zoome sur le bassin du Congo, là, on est dans un cas un petit peu différent où on n'est pas sur un bassin forestier tropical qui a été détruit dans la mesure, dans le même ordre de grandeur que l'Asie du Sud-Est ou que l'Amazonie. On est sur un bassin forestier qui est davantage préservé, où la principale cause de la déforestation, c'est l'agriculture de subsistance. Et vous avez aussi le développement de grandes plantations qui se développent avec notamment l'EVA, donc caoutchouc naturel, et huile de palme. Et vous avez aussi une exploitation forestière compliquée, notamment en République démocratique du Congo, au Cameroun aussi. Voilà pour les principaux moteurs. Ensuite, troisième point, je voulais vous faire un petit focus, un petit zoom sur la question du soja. Pourquoi le soja ? Parce que si on regarde de plus près ce qu'on appelle la déforestation importée, c'est-à-dire la déforestation qui est contenue dans les importations de matières premières et les importations de produits transformés en France et en Europe, le soja arrive en tête. Il y a aussi l'huile de palme, il y a aussi le cacao, mais le soja arrive en tête. Et cette question de la déforestation liée au soja, elle est complètement liée à notre système d'élevage, puisqu'il y a près de 90% du soja utilisé dans l'Union européenne qui est destiné à l'alimentation animale. Donc, très clairement, quand on parle du problème de la déforestation liée au soja, on parle surtout des poulets, des œufs, du porc. On parle plus de ça que du steak de soja. Donc, 90% est destiné à l'alimentation animale. Et si vous regardez de plus près, vous avez 50% du soja qui va pour les poulets et pour les poules pondeuses, donc les œufs. 24% pour les porcs. Donc ça fait déjà 75%. Et après, le reste, c'est donc les bœufs, les vaches laitières. Et la question du soja, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ouais, un petit mot pour vous dire que, évidemment, le soja est lié à la déforestation en Amérique latine. Et il y a d'autres problèmes environnementaux liés à la culture du soja, notamment le fait que 95% du soja en Argentine et au Brésil est OGM, alors que la culture est interdite en Europe, que c'est du soja qui est arrosé de pesticides, dont des pesticides interdits dans l'Union européenne, et avec des pratiques d'épandage, notamment par avion, complètement interdites dans l'Union européenne. Donc il y a vraiment un double standard où d'un côté, la culture de soja OGM avec certains pesticides est interdite dans l'Union européenne, mais par contre, on importe massivement ce type de soja en provenance du Brésil, d'Argentine. Voilà pour le soja, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et pour finir, Sur les solutions que peut préconiser Greenpeace rapidement, nous, malheureusement, on fait le constat que les entreprises utilisatrices de matières premières qui représentent un risque pour les forêts n'ont pas tenu leurs engagements de mettre un terme à la déforestation. En 2010 et dans les années qu'on suivit, il y a énormément d'entreprises qui utilisent du soja, de l'huile de palme, enfin toutes les matières premières liées à la déforestation, qui avaient pris un engagement et qui avaient dit « d'ici 2020, on aura éradiqué la déforestation de nos chaînes d'approvisionnement ». Et malheureusement, on est très loin du compte. On a publié un rapport, quand je dis on, Greenpeace, hein, on a publié un rapport en juin dernier qui montre que malheureusement, on est très très loin du compte et que les entreprises, d'une manière générale, ne savent même pas d'où vient la matière première qu'elles ont dans leurs produits. Donc si elles ne savent pas d'où vient, si elles ne connaissent pas la plantation de palmiers à huile ou le champ de soja, elles n'ont aucune chance de savoir si ça a contribué ou non à la déforestation. Donc nous, notre constat, il est de dire, ok, les entreprises, elles avaient pris des engagements volontaires, elles ne les ont pas respectés, donc il faut maintenant une régulation contraignante qui vienne de l'Union européenne ou qui vienne de la France. Il y a des discussions en cours au niveau européen, donc on suit ça de très près. Et au niveau français, le gouvernement a publié l'année dernière une stratégie nationale de lutte contre la déforestation, qui est un texte qui a des défauts, mais qui a le mérite d'exister et qui malheureusement n'est pas correctement mis en place. Donc nous, on pousse le gouvernement à mettre en place cette stratégie de lutte contre la déforestation pour s'assurer que les matières premières qui sont importées en France ne sont pas liées à la déforestation.
On va passer le micro à Joël Zask maintenant, qui va nous présenter également son travail qui part des méga-feux, un phénomène un peu nouveau, qui amène plein d'enjeux, mais je vais te laisser expliquer comment tu es arrivé à cette réflexion.
Merci, c'est le grand déforestateur, hein, le feu. Là, je crois qu'on n'en a peut-être pas assez parlé. Il y a deux semaines, il y a 1 million d'hectares qui sont partis en fumée en Australie. Les feux sont quasiment entrés dans Sydney et on n'en a pas parlé. On a parlé finalement des feux de forêt, soit pour dire qu'ils étaient normaux, qu'ils faisaient partie des cycles naturels, soit parce que, ils sont entrés dans les villes de manière à faire suffoquer les gens. Ça a été le cas en Amazonie. Là, il se trouve que mon livre est paru le jour où on a commencé à parler des feux d'Amazonie, le 22 août. Pourquoi a-t-on parlé des feux d'Amazonie qui brûlent quand même depuis une bonne dizaine d'années à très grande échelle? Parce que les gens de Sao Paulo suffoquaient, de même qu'on a parlé des grands feux en Sibérie parce que des gens d'Irkoutsk ont commencé à s'étouffer. Il en va de même en Australie, il en va de même en Indonésie. On a commencé à parler des feux, on en a vaguement parlé au moment où c'est finalement les urbains de Singapour et, qui ont eu du mal à respirer. Et quand enfin, finalement, Notre-Dame a brûlé, c'était la forêt, hein, justement, la forêt de Notre-Dame à Paris, bien, il y a eu un grand émoi national et international parce qu'on était directement concernés. Alors, ce qui me semble très étonnant dans cette affaire de méga-feu, là, je ne peux pas résumer le livre, certainement pas, mais ce qui me semble étonnant, c'est la cécité qui nous prend. Alors, c'est vrai que le feu, ça rend aveugle, hein, il y a eu beaucoup de romans sur la question, et puis que le feu, c'est la vie, c'est la mort, le feu, c'est la fin et la renaissance. C'est vraiment un élément complètement à la fois emblématique de l'aventure humaine et particulièrement destructeur. C'est l'enfer et c'est le paradis. Bref, donc il y a un très beau livre de Bachelard d'ailleurs sur la question. C'est le seul livre de philosophie sur les feux que j'ai pu trouver. C'est la psychanalyse du feu chez Bachelard, de Bachelard, qui est un livre ancien. Mais et donc voilà, comment se fait-il qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas davantage à quel point finalement, les méga-feux sont une nouvelle donne qui sont à la fois des marqueurs de la crise du climat et en même temps des contributeurs à cette crise, mais dans des proportions très importantes. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que moi, personnellement, je suis venue à cette question par l'intermédiaire, non pas d'une conscience écologique ancienne que je n'ai pas, ça je dois l'avouer, mais par l'intermédiaire de l'épreuve que constitue la disparition d'un coin de forêt que vous connaissez bien, et qui crée comme une espèce de blessure. Et ce qui m'a intéressé, c'était non pas vraiment d'étudier le phénomène en soi, mais de l'étudier comme un symptôme, comme un révélateur, comme un signal d'avertissement, comme un indicateur en quelque sorte sur quelque chose qui est en train de se passer et qui est comme le paysage vis-à-vis de vous, c'est-à-dire un tout, forme un tout. Et c'est je crois qu'effectivement, le phénomène du feu de forêt, c'est un phénomène qui touche absolument à tous les domaines. C'est un phénomène chimique, physique, géographique, écologique, c'est un phénomène anthropologique, c'est un phénomène social, c'est un phénomène agricole, c'est un phénomène qui touche à la forêt. Donc c'est un phénomène total, j'ai envie de dire, au sens où Mauss parle d'un fait social total. Mais là, c'est total au sens où il n'y a rien qui ne soit pas affecté par le phénomène du feu de forêt. Alors, quand je dis cécité, invisibilisation, c'est sans doute pour des raisons stratégiques et en particulier économiques, de protection d'un certain nombre de pratiques qui sont responsables des méga-feux. Mais c'est aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose de, comment dire, d'impensable ou qu'on refuse d'une certaine façon de voir. Et du coup, ça me fait venir à juste quelques mots sur ce que c'est qu'un méga-feu. Personnellement, j'ai eu un doute vis-à-vis de cette idéologie du feu qui est bon pour la nature, qui fait partie... Alors, je dis une idéologie parce qu'il y a quelque chose d'excessif dans la manière dont ces thèses sont énoncées. J'habite à Marseille et les collines qui étaient boisées jusque dans les années 1945-50, elles sont complètement dénudées. Aujourd'hui, le rocher, il est complètement nu. Quand un feu passe du côté de plants de campagne ou de plants de cuc, il brûle jusqu'aux racines des arbres et à sa souche. Donc, en Corse, il en va de même. Bon, je connais bien ces endroits-là. On voit comment les paysages ont été modifiés, c'est-à-dire en fait par les feux, c'est-à-dire que les sols sont déstructurés et qu'à l'échelle de la vie humaine, si vous voulez, il n'y aura plus rien. Et on sait aujourd'hui, j'ai retrouvé des rapports, que ces feux-là dont je parle produisent des effets irréversibles dans quasiment 60% des cas, hein, suivant les régions, de 50 à 70% des cas. Donc, ces feux ne régénèrent pas la nature, ce sont des feux qui la détruisent très durablement. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ces méga-feux? En quoi sont-ils différents des feux saisonniers, des feux traditionnels, de l'écobuage, des feux dirigés, qui, par exemple, sont le cas, la plupart des feux qui avaient lieu dans le bassin du Gabon dont vous avez parlé, du Congo, je veux dire, pardon, au moment où on a voulu les mettre en parallèle avec les feux qui ravagent l'Amazonie. Ce ne sont pas des feux de même nature. Et donc, de même qu'il y a forêt et forêt, il y a feu et feu. Hein. Et ça, je crois qu'il faut vraiment rentrer dans le détail. J'étais très peu préparée, c'est pas du tout ma spécialité, mais avec un peu d'attention, quelques lectures et quelques questions, on arrive à trouver son chemin, étant donné qu'on a beaucoup de documents mis à disposition sur l'Internet aussi, mais on trouvait son chemin à travers des nouvelles problématiques. Donc, je dirais, le méga-feu, très rapidement, c'est un feu qui, d'abord, est clairement lié au réchauffement climatique. Le terme, il apparaît en 2015, hein, donc c'est assez récent, mais ça fait, on dira, peut-être une quinzaine d'années qu'on assiste à un nouveau régime du feu, en quelque sorte. Et par ailleurs, il est d'une étendue beaucoup plus vaste. Il atteint des niveaux d'intensité qui ne sont pas celles des feux saisonniers ou des feux traditionnels. Et par ailleurs, je dirais, d'un point de vue anthropologique, ce sont des feux qu'on ne peut pas éteindre. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu mis sur la voie, c'est-à-dire au Cap Bénat qui a brûlé et qui était un peu le point de départ de ma réflexion. Mais je me suis retrouvée, j'ai pas assisté au feu, mais j'ai beaucoup parlé avec des gens et des pompiers, des riverains. Les pompiers ne peuvent rien faire contre ces feux. Les forestiers ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que, en fait, l'idée qu'on va pouvoir les dominer est une idée absurde. Et d'ailleurs, c'est là, il y a eu encore, j'étais aux États-Unis, il y avait des feux en Alberta, bien sûr, mais aussi en Californie, à nouveau, hein, toutes sortes de feux absolument destructeurs. La Californie plongée dans le noir pendant des jours et des jours, des millions de gens privés de lumière, mais également chassés de chez eux. 600 000 départs hors de la Californie. Plein de gens qui vous disent aux États-Unis, la Californie, c'est terminé. On s'en va. Parce que, et n'y allez pas, parce qu'il y a des feux et qu'on ne va pas les dominer. Et donc, et par ailleurs, des pompiers et des spécialistes qui vous disent, on ne peut rien. Partez. La seule consigne, c'est de partir, si vous voulez. On ne peut pas protéger les maisons. On peut protéger les gens en les avertissant de déguerpir, mais on ne peut pas éteindre ces feux, on ne peut pas les contrôler. Et ça m'a mis, si vous voulez, sur la voie, d'une identification des discours dominants qui expriment notre rapport à la nature. Et j'en ai identifié deux qui sont très favorables, finalement, au développement des feux de forêt, des méga-feux. Le premier, c'est l'idée finalement que la nature doit être dominée. L'idée qu'on va dominer la nature qu'en la dominant, voire en s'y substituant, et ça c'est le cas dans l'agriculture aidée de la chimie à partir des années 1840, en substituant même l'industrie humaine à la nature elle-même, on va faire mieux, on va rationaliser tout ça, on va supprimer l'imprévisible, on va nourrir aussi le globe terrestre, hein, comme si l'agriculture industrielle avait nourri qui que ce soit, enfin, en l'occurrence, je vous rappelle que 80% aujourd'hui, j'aime bien dire ce chiffre, mais de l'alimentation, plus j'ai envie de dire la nourriture humaine est produite par ce qu'on appelle l'agriculture traditionnelle et familiale, c'est-à-dire des petites exploitations, etc., et que l'agriculture industrielle donc n'en produit que 20%, et encore, il faudrait interroger la qualité des aliments. Donc, voilà, il y a toute cette idée voilà, de maîtrise. Alors, on cite souvent Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, sauf que Descartes avait inséré le mot comme, maître et possesseur, et non pas se rendre maître et possesseur. Je crois que ça fait une grande différence. Et nous, en revanche, enfin, disons qu'il y a là eu toutes sortes de d'héritiers, si on peut dire, ou de mauvais héritiers qui ont supprimé le com et qui ont vraiment eu ce projet de maîtriser la nature au point de pouvoir s'en passer et de substituer un ordre chaotique, un ordre parfaitement rationnel et propice finalement à l'essor de la civilisation. Donc vous avez ça et ce discours, il est plaqué sur les feux aussi. Et d'où la naissance de ce qu'on appelle le complexe industriel du feu, c'est-à-dire la lutte contre le feu. Le feu, c'est l'ennemi à battre, c'est le monstre tueur, et on invente des exosquelettes et des flottes aériennes et des flottes terrestres et des engins de détection et des ceci et des cela. Tout ça pour rien, même si ça coûte des milliards de dollars et que ça absorbe d'ailleurs le budget des forêts et des parcs naturels. Donc, tout ça pour rien, parce que de toute façon, ces feux, on ne peut pas les éteindre. Et puis, à l'opposé, j'arrêterai là d'ailleurs, à l'opposé de ce discours, vous avez un discours qui s'est beaucoup finalement logé dans une série de doctrines écologiques, qui est ce qu'on pourrait appeler un anti-extractivisme, bien sûr, mais qui est plutôt un préservationnisme, et qui s'alimente à l'idée que finalement, la nature est bien faite et que l'homme laisse quinte, que, comme le disait Élisée Reclus, par exemple, pourtant un peu le dieu des géographes, l'homme enlaidit la nature, hein, ne peut que l'enlaidir. Et donc, finalement, ce que peut faire l'homme, c'est d'abord de laisser la nature à elle-même et de s'en retirer, se retirer, quant à lui, dans des centres urbains hyper denses et de l'abandonner, en quelque sorte, de la laisser, de la livrer à elle-même, d'où la philosophie ou la théorie, si vous voulez, ou l'idéologie des parcs naturels, hein, qui est une idée qui naît, je passe, qui vise aussi, ça a bien sûr un peu changé, à sanctuariser la nature. Et donc, et que ce que l'homme peut faire de mieux, en quelque sorte, pour se retrouver en tant qu'être naturel, c'est de faire coïncider sa logique intérieure avec celle des événements naturels, etc. D'où aujourd'hui, la philosophie du bien-être, du bien-vivre, qui est quand même très préservationniste, au sens où nous-mêmes, on aurait une nature à préserver, à retrouver, à conserver, à sanctuariser. Enfin, moi, je ne crois pas trop dans ces trucs-là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que d'un côté, l'augmentation, si vous voulez, des rythmes d'extractivisme et de production industrielle liés à la doctrine de la domination de la nature, et de l'autre, le préservationnisme qui condamne les feux dirigés, l'entretien des forêts, les bûcherons, les forestiers, tous ceux qui sont qui connaissent quelque chose et qui savent cultiver la forêt, comme disait Clifford Geertz, et puis on le connaît mieux. Descola plus récemment, mais bon, enfin, je trouve qu'il y a des textes de Clifford Geertz sur justement la culture de la forêt en Indonésie qui sont absolument magnifiques, dont un qui date de 63. Bref, et donc cette solution un peu intermédiaire, eh ben, c'est celle-là qui fait défaut. Et je pense que justement, je rentrerai certainement pas là maintenant dans le détail, mais que c'était là un peu le goût à la fois esthétique, théorique, historique, géographique pour cette posture intermédiaire qui m'a amenée à faire ce travail sur les feux de forêt. Voilà, je vous remercie.
Merci Joël. On a le temps, si vous voulez très brièvement réagir les uns les autres en deux minutes avant qu'on passe aux questions. Je crois que Gaspard, si tu voulais prolonger ton propos, peut-être justement sur les alternatives.
C'est toujours le défi quand on introduit, on se dit mince, on a oublié plein de choses. Mais évidemment, les deux enjeux sont quand même différents entre les forêts tropicales et les forêts tempérées.
Nous, ce qu'on vit, c'est une industrialisation partielle à certains endroits, dans certains massifs forestiers. C'est plus une alerte. Moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'aujourd'hui, il faut repolitiser ces questions des forêts aussi, qu'il y a des luttes en cours et que c'est des luttes sociales aussi. Je voulais peut-être, pour rebondir sur ce que tu disais, Marjolaine, revenir. On a beaucoup parlé donc un peu des écosystèmes. Tu as parlé un peu des savoir-faire, mais je voulais juste mentionner aussi le combat des forestiers, de l'ONF notamment, de l'Office national des forêts. Et on se voit, en fait, la forêt est très intéressante. L'enjeu des forêts est très intéressant parce que on voit il y a une adéquation entre des combats sociaux et des combats écologistes, on va dire, et où les syndicalistes de l'ONF sont à la croisée entre deux luttes, à la fois pour la défense des écosystèmes et pour la défense de leurs conditions de travail qui se détériorent du fait de réformes néolibérales et du démantèlement d'un service public forestier. Et donc je pensais que c'était important aussi de rappeler ça, de rappeler aussi l'espérance de vie des bûcherons dans les forêts privées. C'est un des métiers quand même qui est le plus dangereux, une espérance de vie de 62 ans, donc qui profite à peine de la retraite. J'ai rencontré beaucoup de sociologues qui m'ont raconté les conditions de travail qu'ils avaient. Espérance de vie en bonne santé de 52 ans. Des femmes qui étaient obligées de lacer les souliers de leur mari avant de partir au travail parce qu'ils ne pouvaient plus se baisser. Ils étaient sous avec des troubles musculo-squelettiques, énormément de choses très très dures. Donc voilà, de pas oublier que derrière la défense des écosystèmes, il y a aussi la défense des hommes et de leur travail et de leur savoir-faire, quoi. Donc ça, c'était peut-être un premier point que je voulais souligner, quoi, rappeler.
Je veux bien dire juste un mot, c'est que je pense effectivement, enfin, je suis complètement en accord et que c'est très frappant de constater que ce qu'on a fait à la nature, c'est toujours ce qu'on a fait à l'homme. Enfin, il n'y a pas deux traitements, un pour les hommes, un pour la nature, même si on agit pour le bien de. Et je vais citer juste un exemple que j'ai un peu documenté dans mon livre et sur lequel va paraître bientôt une série ou un film, je ne sais plus, c'est Fordlandia en Amazonie, justement. C'est Ford, justement, qui va incendier 1 million d'hectares de forêt primaire pour la remplacer par une plantation d'EVA qui destine. Là, on est en 1920, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, qu'il destine à la fabrication des pneus pour ses véhicules. Et en même temps qu'il détruit la forêt, il détruit complètement les gens. Enfin, les gens, c'est-à-dire qu'en fait, il va... Mais il ne le fait pas... On dirait, il n'a pas du tout une perspective génocidaire. Mais le fait est qu'il y a comme effet génocidaire le fait qu'il supprime la forêt, d'une part. En plus, comme il n'y connaît absolument rien, enfin, il le fait faire, il n'y connaît rien, les EVA sont plantés côte à côte, si bien qu'ils vont tous se communiquer des maladies et mourir. Mais par ailleurs, il fait... Enfin, disons que les Indiens, ils leur construisent des maisons, ils pensent que c'est bien, il y a même un terrain de golf, une piscine, un machin, il leur sert des épinards en boîte et du comment ça s'appelle, enfin, du corned beef. Il leur interdit de consommer leur propre nourriture parce que c'est mauvais. Interdiction d'alcool et de femmes aussi. Enfin, il y a tout un, ce grand capitalisme paternaliste. Et du coup, cette tutelle qu'il voudrait exercer sur la nature, elle exerce aussi sur les gens. Ça, je crois que c'est très révélateur. Enfin, Napoléon III a fait la même chose dans les Landes. Hein. C'est vrai que c'est pas la peine de regarder si loin. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est pareil, la colonisation, c'est le terme qui est utilisé d'ailleurs par Napoléon III Haussmann. La colonisation des Landes, c'est la colonisation de la nature et des populations. Parce que justement, les Landais sont des espèces de considérés comme des sauvages, qui n'obéissent pas aux ordres, qui sont très indociles, qui ont leur communauté autogérée, qui sont finalement dangereuses pour la société et pour la République française. Et donc, détruire une forêt, c'est détruire les gens. Et disons que détruire des gens, c'est aussi détruire leur habitat, d'où le pyroterrorisme aujourd'hui. Hein, ça, il faut. Bon, bref. Donc, je ne pense pas qu'il y ait deux ordres.
Merci, je voulais peut-être ajouter un petit mot sur déforestation et feu pour rebondir sur tout ce que vous avez dit. Les feux de forêt, en fait, sont énormément créateurs d'émissions de CO2, plus que quand on coupe une forêt comme ça, parce qu'évidemment, le carbone va se relâcher dans l'atmosphère petit à petit.
quand le bois est coupé, mais quand le bois est cramé, là, tout le CO2 est rejeté directement dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on a des émissions de CO2 qui sont extrêmement importantes au moment de la saison sèche et au moment de la saison des incendies dans les bassins tropicaux. Et je voulais vous dire un petit mot peut-être sur ce qui se passe en Asie du Sud-Est, où en fait vous avez les forêts tropicales et vous avez énormément de tourbières. Donc les tourbières, vous voyez, ce sont des écosystèmes marécageux qui stockent énormément, énormément de carbone. Le problème, c'est que comme ce sont des écosystèmes marécageux, en fait, on peut pas planter de palmiers à huile ou d'EVA dessus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les industriels en fait vont assécher ces zones-là pour pouvoir planter. Et en fait, en faisant ça, ils vont rendre la tourbe extrêmement inflammable, ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, quand quelqu'un va mettre le feu à une parcelle, le feu va s'étendre en fait via la tourbe, donc de façon un peu souterraine, de parcelle en parcelle, et devient complètement inarrêtable. Et c'est pour ça, c'est aussi lié au fait qu'il y ait des tourbières, qu'il y a des émissions de CO2 qui sont extrêmement importantes les années en Indonésie. Ouais, de méta.
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je me rends compte que moi, ça me crée un peu, là, tout ce qu'on vient de dire, un sentiment un peu anxiogène. Et qu'au début, je devais parler plutôt des alternatives. Le RAF, c'est le réseau des alternatives forestières, pour les alternatives forestières. Et je me suis un peu attardée. J'ai pas parlé de cas concrets. Et en fait, le réseau, c'est des réseaux de gens, d'acteurs, d'actrices. Pour avoir une note un peu positive, j'ai envie de parler, par exemple, je vais parler d'un exemple là assez global. Il y a une école de charpente qui est en train de se créer pour apprendre à faire de la charpente traditionnelle, mais pour aussi passer son CAP de charpente si on le souhaite, qui est en train de se créer aussi par différents réseaux, mais aussi par le réseau du RAF, et qui sont en train d'acheter une forêt par le biais de Forêt en Vie, par le fonds de dotation, qui va acheter sûrement une forêt grâce au fonds de dotation du RAF, ou peut-être un autre fonds de dotation, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, que ça existe aujourd'hui, que cette école-là de charpente existe, mais qu'il y en a aussi d'autres, qu'il y a aussi y a des bûcherons, il y a des amaps de bois bûches, et de voir du lien de la forêt jusqu'au bois, jusqu'aux meubles, jusqu'au bois de chauffage, d'avoir du lien avec les gens qui sont dans la forêt, qui vont faire les meubles ou qui vont d'avoir du lien avec la matière, avec les gens, avec ces artisans, c'est possible. Ça demande un peu de recherche, ça demande un peu de volonté, mais c'est possible et ça existe. Et heureusement, il y a le RAF. Heureusement, il y a d'autres réseaux. Il se passe beaucoup de choses, en fait, mais il faut regarder un petit peu de plus près. Et donc, je vous encourage à le faire, je vous encourage à aller dans les scieries plutôt qu'aller à Leroy Merlin, parce qu'en plus, le bois sera moins cher. Il sera énormément moins cher. Des fois, même, c'est 10 fois moins cher. Même, des fois, c'est 50% moins cher. C'est extrêmement cher, en fait, le bois que vous allez trouver à Leroy Merlin et compagnie. Et c'est du bois de très mauvaise qualité et qui, en plus, qui a le floc PEFC ou FSC. Hein, c'est inadmissible. Donc, allez dans les scieries et essayez de les soutenir. Et soutenez les artisans et achetez du bois de seconde main, enfin des meubles de seconde main. Ou là, quand on parle de stockage de carbone, Notre-Dame, donc la cathédrale, pas Notre-Dame-des-Landes. Parce que moi, j'ai longtemps cru que c'était Notre-Dame-des-Landes qui brûlait, je ne comprenais pas. J'étais, de toute façon, ils sont déjà tous partis. ça crame. Bon, bref. En fait, le carbone, il a été stocké pendant des siècles dans cette charpente-là. Et c'est là qu'on stocke le carbone, qu'on a du bois qui dure longtemps dans nos meubles, dans nos maisons. Voilà.
On va ouvrir aux questions du public maintenant. Donc, je crois qu'il y a déjà beaucoup de mains qui se lèvent.
Oui, bonjour. Moi, j'aurais quelques questions à poser à Gaspard. Je crois avoir entendu dans une émission sur France Inter, La Terre au Carré, il y avait une partie d'émission sur la forêt, et je crois avoir entendu que 10 à 15% de la forêt en France était une forêt sur une base de monoculture d'une seule espèce. Est-ce que vous confirmez ce chiffre-là? Et est-ce que ça veut dire que la surexploitation de la forêt se concentre sur certains bassins seulement et que le reste est relativement préservé? C'est ma question première. La deuxième, quelle est la proportion de la forêt qui est une forêt d'État ou une forêt du domaine public? Et ma dernière, quelle est la politique de l'ONF actuellement? Alors, c'est peut-être un peu trop vaste, mais voilà.
Non, du tout. Donc, oui, réfléchir à l'échelle nationale, en fait, c'est assez... on ne voit pas les disparités locales. Et c'est vrai que c'est important de voir que la sylviculture industrielle, donc qu'est-ce que j'entends par sylviculture industrielle, c'est plantation d'arbres au lieu du renouvellement naturel, monoculture au lieu d'une forêt diversifiée et coupe rase ensuite avec des abatteuses, donc avec une mécanisation. Cette sylviculture industrielle, elle est quand même localisée sur certains massifs forestiers, comme je disais en introduction, c'est surtout les Landes, le Morvan, le Limousin, le Beaujolais aussi. Alors, dans la forêt de Fontainebleau, il y a des coupes, oui, oui. J'allais y venir. Alors, j'ai grandi dans la forêt de Fontainebleau, justement, et donc, et en fait, ce qui est en train de se passer, qui est assez terrible, c'est qu'ils utilisent, ils instrumentalisent, en fait, la lutte contre le réchauffement climatique en disant que le chêne ou le hêtre vont être des essences qui ne vont pas résister au réchauffement climatique. Donc, au lieu de réfléchir à une résilience, à une forêt résiliente, on réfléchit à substituer des essences à d'autres essences. Donc là, on est en train de réfléchir à ramener du cèdre du haut atlas à un sapin aussi de Turquie, enfin pour remplacer l'épicéa notamment dans les Vosges. Enfin, donc il y a vraiment une. C'est vrai que la lutte contre le réchauffement, enfin l'adaptation. On n'est plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. On est dans l'adaptation au réchauffement climatique. Permet en fait de transformer la forêt comme le voudraient certains industriels en fait. Et donc c'est vraiment un danger, on l'a vu aussi dans la forêt du Nord, dans la forêt de Mormal, où des militants de l'association Forêt Agir avaient justement alerté sur ce point-là. Alors sur ce qui est de la forêt, donc oui, juste pour répondre, la sylviculture industrielle, elle est quand même localisée, et je pense que c'est pas bien de, enfin, je pense que c'est pas très intéressant de réfléchir à l'échelle nationale. Vaut mieux voir, par exemple, comme je disais, à l'échelle du Morvan, c'est ultra révélateur, quoi. Les monocultures résineuses sont passées de zéro à aujourd'hui plus de 50%. Ils ont arrêté même les statistiques en 2003. Dès que les monocultures de Douglas dépassaient en fait les anciennes forêts de feuillus, on le voit dans certains massifs. Mais si on réfléchit à l'échelle nationale, ça va gommer un peu ces données-là et donc minorer un peu le phénomène. La forêt privée, elle, c'est 70% de la forêt, 75% de la forêt nationale. Et donc la majorité des forêts communales et ensuite il y a les forêts domaniales. Et donc l'ONF, la politique de l'ONF aujourd'hui, je dirais c'est de naviguer à vue. Enfin non, c'est un peu compliqué. Enfin on le voit, ils sont en fait dans une période un peu compliquée de démantèlement. Enfin les syndicalistes parlent de privatisation rampante, de démantèlement progressif en fait du service public forestier. Faut imaginer que c'est à partir de 2003 qu'ils ont été dans une forme de déficit assez conséquent parce que toutes leurs ressources, leurs ressources est axée sur la vente de bois, donc ça pousse aussi au productivisme et à une coupe, à couper plus de bois. Et donc il y a eu des politiques néolibérales très très fortes à partir de 2003 qui a conduit à des suppressions de postes. On est passé de 15 000 employés à 9 000 avec aussi surtout l'embauche de contractuels et plus de fonctionnaires, donc une défonctionnarisation aussi de ce service public. Ça a conduit à une spécialisation des tâches, certains parlaient de taylorisme dans les forêts, avec aussi une perte de sens, ça c'est très important. Il y a beaucoup de forestiers qui aujourd'hui disent avoir l'impression de travailler contre l'ONF pour préserver les forêts, enfin contre la direction de l'ONF. Donc il y a vraiment un malaise social en fait très présent, très palpable quand on discute avec les forestiers de l'ONF et qui a conduit à des suicides aussi, à une quarantaine de suicides depuis 2003. Donc on parle beaucoup de France Télécom en fait. Il y avait le procès récemment de France Télécom, mais on parle moins des suicides qui touchent justement ce service public forestier. et qui est quand même dramatique. D'autant plus que d'anciens directeurs comme Christian Dubreuil disaient, il n'y a pas de, il le disait haut et fort dans une audition au Sénat, vous pouvez retrouver la vidéo, il n'y a pas de suicide à l'ONF, quoi. Donc ce qui a conduit vraiment à des une perte de dialogue social en fait en interne. Et tu voulais rajouter un petit
sur les massifs qui sont exploités. Moi, je vais parler plutôt de... Il y a certains massifs qui sont surexploités et des massifs qui sont peu touchés. J'ai parlé un petit peu du mitage de la... Enfin, c'est pas moi qui utilise ce mot-là, c'est un mot qui est utilisé par les politiques, du mitage de la propriété forestière. Il y a beaucoup de très petites propriétés et après, il y a quelques grands massifs. Et donc, en fait, ce mitage-là de la propriété préserve d'une certaine manière la forêt en France parce que c'est très difficile d'intervenir sur des petites surfaces. C'est plus facile d'intervenir sur des massifs de plus de 25 hectares, et notamment la loi favorise plutôt l'intervention sur des gros massifs par des subventions. Et donc, on arrive à des massifs qui sont surexploités, notamment le massif des Landes, qui est plutôt un massif forestier privé, pratiquement dans sa totalité. Et par contre, sur les forêts publiques, alors ce n'est pas des forêts publiques qui sont à tout le monde, ce sont les forêts privées de l'État, publiques, quoi. Oui, les forêts communales, mais ça c'est clairement dit dans les textes, c'est la forêt publique, la forêt privée de l'État, la forêt publique, qui est donc pour un quart, donc seulement un quart. Et donc cette forêt-là, par contre, elle est typiquement bien aménagée pour l'exploiter. Donc cette forêt-là aussi est en voie à une surexploitation, la forêt publique, parce que la forêt privée est plutôt très morcelée. Et donc je disais aussi que la loi forestière a très peu évolué. Elle a évolué avec la loi LAF de 2014. Sur l'amélioration, on améliore l'agriculture et la forêt. Et donc là, en fait, on donne maintenant plus de droits aux coopératives forestières, donc aux grosses structures, pour avoir accès au cadastre, notamment pour faire du démarchage à tous les propriétaires, les petits propriétaires, pour pouvoir exploiter sur des gros massifs. Donc là, y a des lois qui sont faites pour en fait pousser au-delà du droit de propriété forestier, qui déjà est très permissif, mais comme on est sur plein de petites parcelles, c'est difficile d'en venir en forêt, et donc on passe au-dessus en disant on va étendre l'exploitation en passant au-delà de ça et en incitant les propriétaires à céder en fait juste leur bois sans céder leur droit de propriété.
Moi, je dis bravo aux alternatives, tout ce qui se met en place actuellement, les collectifs aussi. Puis je fais partie du collectif du village de Loire, qui milite actuellement contre le pont de Jargeau, enfin un pont qui a détruit une partie de la forêt. Et en allant sur un colloque, là, dernièrement, sur comment délibérer du travail, j'ai entendu un chercheur qui disait « Mais pourquoi les collectifs citoyens ne rentrent pas dans les entreprises ?» Parce qu'effectivement, on est sur des mondes parallèles, c'est-à-dire qu'on milite effectivement sur le terrain, mais pourquoi les citoyens qui subissent ces dommages ne demandent pas des comptes aux entreprises, aux grands groupes, et effectivement demandent à être reçus au même titre que qu'on peut être reçu sur d'autres sujets où on demande des experts effectivement de venir nous rejoindre. Alors ça peut paraître un peu fou, mais c'est une idée qui était soumise et qui me semble intéressante. On pourrait peut-être, pour les collectifs qui militent, notamment tous les collectifs, de s'approprier cette possibilité. Alors, je ne sais pas sous quelle forme encore, mais du coup, soutenir aussi l'ONF, puisqu'il y a des syndicats de l'ONF là, qui sont venus intervenir et qui ont une façon de militer en interne qui est assez étonnante. Enfin, ils retiennent la production de bois, et je trouve ça quand même... Et qu'ils ont besoin d'aide. Et on viendrait effectivement toucher... plus largement les citoyens, les gilets jaunes. Enfin voilà, ça, la visée serait plus large que celle qu'on a dans des collectifs qui sont finalement très entre nous. On sait, on connaît les dangers, mais il faut que tout ça s'élargisse davantage au-delà des luttes environnementales, quoi. Elles sont sociales, comme disait Gaspard tout à l'heure. Voilà, une réflexion personnelle.
Oui, je pense que Marjolaine, on a déjà quand même pas mal parlé. Mais je pense que ça ne se fera pas uniquement par des éco-gestes non plus ou par une prise de conscience de d'où vient ce bois, comment il a été exploité, de s'interroger, d'aller dans des scieries ou tout ça. Enfin, ça passe par par des gestes individuels, par une réappropriation de tout le bois qui nous environne et des gestes de consommateurs, mais pas que, en fait, ça passe aussi par des luttes sociales. Et c'est là où il est en train d'émerger en France quelque chose que moi, je trouve assez palpitant, assez enrichissant, entre à la fois des syndicalistes de l'ONF, des associations plutôt environnementales, et aussi des gens qui sont plus militants sur des luttes de territoire ou sur des ZAD, et où on trouve une forme d'alliance, de convergence sur des territoires qui est vraiment intéressante. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans ces mobilisations-là. Dans le Morvan, on a vu, il y a 2 semaines, il y a eu 500 personnes, et c'est pas rien, qui se sont mobilisées contre les coupes rases. Et donc, c'est quand même une première. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de mobilisations contre les coupes rases ou contre l'enrésinement de certains massifs forestiers, mais plus dans les années 70. Il faut imaginer que dans le Limousin, on a détruit des granges et des micro-villages, enfin des hameaux, pour faire des plantations résineuses. Donc, à l'époque, dans les années 70, il y a eu beaucoup de résistance. Mais là, aujourd'hui, on a un peu un sursaut, un renouveau, en fait, d'action militante, et notamment avec... Donc j'invite moi un peu tout le monde à s'engager dans ces luttes-là. Après, il y a une bataille institutionnelle aussi qui est en train d'être menée pour essayer de voir comment on pourrait mieux réguler les coupes rases. Donc il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été lancée justement pour interroger, pour voir comment on pourrait faire une loi cadre sur une autre civiculture et promouvoir la futaie irrégulière, la futaie jardinée. Enfin voilà, il y a des modes alternatifs de civiculture qui existent déjà, et c'est même pas juste des alternatives, c'est une part de la solution et qui était là depuis, des savoir-faire qui existent depuis des centaines d'années. Et faut pas oublier que la civiculture industrielle, c'est presque un épiphénomène en fait dans l'histoire. Ça fait 50 ans qu'elle est là, les machines, les abatteuses dans les forêts, c'est depuis les années 90. Donc voilà, les solutions, on les a déjà en fait. C'est une réappropriation de ces savoir-faire et le développement de ces futaies jardinées. Tout ça. Je sais pas
si... Oui, juste pour poursuivre, le phénomène des méga-feux, c'est un phénomène universel, global, mais je crois qu'un grand nombre des solutions sont locales. Et je crois que c'est aussi ce paradoxe, cette difficulté dont le phénomène du méga-feu est le révélateur. Alors bien sûr, il y a des solutions globales aussi, au sens où il y aurait à réguler les activités productrices de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, ce qui semble devoir et pouvoir se passer d'ailleurs, et il en existe toutes sortes d'exemples, c'est comme ce qu'on pourrait appeler une nouvelle alliance finalement entre les hommes et la nature, et une alliance aussi entre des temps différents. Par exemple, bon, c'est vrai que toutes ces activités destructrices des forêts et qui produisent du feu à très grande échelle sont des activités relativement récentes, mais par exemple, en Australie, il y a encore une vingtaine d'années, face à un méga-feu, on disait « bon, on va inventer, on va mettre de l'argent sur la table de l'industrie pour améliorer les capteurs, améliorer le système d'alarme et en même temps le système de destruction des flammes, etc. » Aujourd'hui, on dit « allons à la rencontre des autochtones, des aborigènes d'Australie qui savent y faire avec le feu. » Ils ont 12 mots différents pour dire le feu. Ils pratiquent les brûlages dirigés depuis quelque chose comme 16 000 années au moins. D'ailleurs, il faut rappeler ici que les usages anthropiques, c'est-à-dire les usages du feu, les usages auxquels finalement toute la Terre est habituée ou est ajustée, sont des usages qui remontent à 1,6 million d'années, hein, depuis que les espèces humaines savent conserver les flammes. Elles ont su les allumer plus tard, mais en tout cas, elles savent les conserver depuis Homo erectus. Donc, c'est une vieille histoire. Et partout où les hommes ont été, ils ont mis le feu et ils ont transformé les paysages. Et du coup, dire que la nature a besoin des feux, c'est cette nature anthropisée qui en a besoin. Il y a des tas de gens qui savent y faire. Alors, on a aujourd'hui comme ça des alliances qui se mettent en place entre des ingénieurs sortis de l'INRA et des gens sur place. C'est le cas, par exemple, des opérades en Corse, moi, que j'ai pas mal étudié, auxquelles j'ai pu participer. Alors, les opérades, c'est justement des groupes de citoyens qui s'organisent, ou de gens tout simplement, de riverains, qui s'organisent pour aller faire, rendre un service à la forêt, rendre un service, par exemple, démaquiller une maison, entretenir telle ou telle portion de forêt, supprimer, enlever le bois mort, ou en tout cas une partie, juste ce qu'il faut, pratiquer des brûlages en mosaïque, ou etc., etc. Donc, les gens, en fait, il y a des gens qui savent encore toutes ces choses-là et qui peuvent le transmettre, à condition qu'on leur en donne à la fois la possibilité matérielle, je dirais, la possibilité morale et qu'ils puissent effectivement opérer sur le terrain. Donc, moi, il me semble qu'effectivement, face au feu, il y a toutes sortes de... Dans l'urgence, il faut le dire, toutes sortes de nouveaux groupements qui apparaissent et qui ne sont pas simplement des retours au passé, hein, ça c'est impossible, on ne revient jamais dans le passé, mais qui arrivent à des combinatoires à la fois de sciences, de savoir et de catégories sociales et professionnelles dont on n'avait aucune idée jusqu'à très très récemment et qui sont à la fois très bonnes socialement et politiquement et bonnes pour la nature en même temps.
Vous nous demandez comment défendre la forêt. Peut-être qu'on pourrait demander qu'au lieu d'être relevé du ministère de l'Agriculture, il soit maintenant à l'écologie. Parce que forcément, que tant qu'il sera au ministère de l'Agriculture, il sera dans l'utilitarisme de la chose. Moi, je n'ai pas encore entendu cette... c'est en vous écoutant que j'ai compris qu'il fallait que ça change d'époque. Au moment où on dit que c'est les forêts qui permettent de lutter contre le réchauffement, c'est quand même aberrant de le maintenir au ministère de l'Agriculture. Bon, l'autre question que je voulais vous poser, d'abord par rapport à ce que vous racontiez, je trouve que le film Le Temps des Forêts, même s'il y a peut-être des critiques et autres, c'est un instrument tout enseignant devrait être en capacité de montrer ce film, que ça soit sur la biologie, sur les relations humaines, sur la technologie. C'est extraordinaire comme outil de compréhension de ce qui se joue dans la forêt et comment on passe des petites entreprises à ces grosses machines. Quand on les voit arriver, on a l'impression qu'on est dans une situation de guerre. Enfin, c'est... Alors, l'autre question, parce que quand même, quand on est écolo, il faut qu'on trouve un peu des solutions, sinon on est dans la plainte permanente ou dans la constatation, mais on peut y rester sur sa chaise pendant très longtemps. La filière bois, d'un côté, on revendique des constructions de logements en bois, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des résineux, je pense que c'est avec ça qu'on le fait. Alors, où on organise une production qui permet à la filière bois de se développer, où on est des prédateurs et on va les prendre en Roumanie, en Finlande ou je ne sais où. On peut dire qu'il faut défendre, mais elle a une fonction, cette forêt. Elle est dans l'ordre du vivant. Elle n'est pas faite pour être dans un musée. Elle est faite pour permettre à tout un chacun de vivre dans des conditions... Et la revendication des logements en bois, ou alors il faut dire le bois, il vaut mieux le ciment, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de la filière bois et de la gestion des forêts ?
C'est un peu ce que j'ai voulu aborder quand j'ai parlé de l'ossature bois avec du bois tout jeune et ultra traité. La filière bois, comme vous dites, c'est vraiment de la forêt jusqu'à la construction. Et oui, les logements en bois, c'est quelque chose... moi, j'en ai envie. C'est quelque chose d'enviable. Et même, y a un autre livre qui a été écrit il y a 2 ans ou 3 ans par Ernst Surcher, Les arbres entre visibles et invisibles, un livre génial, et en fait qui montre à quel point c'est salutaire en fait de vivre dans du bois, à quel point ça fait du bien, c'est vraiment bon quoi, de vivre dans des structures en bois. Et donc quel bois on veut pour nos maisons ou pour nos maisons ou pour nos meubles, va définir quelle forêt on aura. Et en fait, la filière bois en France, elle était et elle est encore un petit peu faite pour avoir du bois d'œuvre, ce qu'on appelle du bois de construction, de qualité, de feuillus, de différentes essences, de différents diamètres. Ça existe, elle est en train de se perdre, mais elle existe. Et donc aujourd'hui, c'est les politiques gouvernementales qui sont en train de ne plus soutenir ces scieries, ces artisans, qui sont en train de soutenir les méga-scieries. Et donc, comment faire ? Il y a ce qu'on peut agir d'un point de vue de lobbying et aussi d'un point de vue plus local en essayant d'aller dans des scieries ou des choses comme ça pour se consommer. Mais Après, il y a construction en bois, ce qu'on appelle ossature bois, et construction en bois, où là, il y a beaucoup de choses différentes. Maintenant, j'ai vu un reportage sur des immeubles de plusieurs étages en bois, parce que ça sera du bois collé, donc c'est du petit Douglas, mais donc on fait de l'industrialisation de bois pour pouvoir faire des immeubles en bois. Ça devient aberrant. Le bois n'a pas besoin d'être industrialisé. Il est déjà là, en fait. Tout le bois, c'est une matière géniale. Il n'y a pas besoin de l'industrialiser pour en faire des immeubles. Là, Notre-Dame n'avait pas eu besoin d'industrie pour exister.
Je disais, on n'a pas eu besoin de Douglas pour faire une belle charpente qui dure 800 ans. Mais juste un point, c'est que les monocultures résineuses ne servent pas toujours pour faire du bois d'œuvre, en fait. C'est ça le grand problème. Le Limousin, à l'origine, avait été pensé pour faire du contreplaqué, les forêts résineuses du Limousin. Sauf que la filière s'est cassée la gueule, la filière de seconde transformation. Et donc aujourd'hui, ça part pour de la palette. Et donc c'est ça, en fait, on a un usage bas de gamme, en fait, de notre forêt. C'est le grand problème. Si ça partait pour faire des maisons en bois, moi je dis pas, mais c'est même pas le cas.
Benoît.
Voilà, c'était la remarque que je voulais faire par rapport à la question que vous posez de est-ce qu'il faudrait que l'ONF passe au ministère de l'écologie ou au ministère de l'agriculture. Je pense que finalement, ce n'est pas vraiment la question, parce que les problèmes qu'on voit un peu de la forêt, c'est pas la forêt en elle-même, c'est un peu le résultat du système économique dans lequel on est et d'une logique productiviste, d'extractivisme du bois. Et c'est finalement quand même cette logique économique qu'il faut qu'on puisse modifier si on veut pouvoir préserver la forêt, que ce soit au niveau local pour réintroduire des pratiques différentes des forêts qu'on va gérer localement, que ce soit au niveau national, donc par rapport aux tutelles et aux politiques qu'on peut avoir dans leur ensemble, et même quand on parlait des forêts, pour le coup, tropicales, sur la mondialisation qu'on connaît actuellement et les traités de libre-échange par lesquels on a un système alimentaire qui fait qu'on est obligé de faire de la déforestation dans les forêts tropicales. Donc je pense que là, on sort un peu simplement du cadre des forêts, mais c'est vraiment le cadre dans lequel il faut pouvoir aussi examiner cette question si on veut pouvoir répondre de manière correcte à ce qui nous est posé.
On peut prendre éventuellement une dernière toute petite question rapide, mais ça va être l'heure de conclure, je suis désolée, j'ai le mauvais rôle. Et du coup, je n'ai pas vu qui avait levé la main en premier rang, tout ça, donc c'est arbitraire.
Ouais. Je suis désolée de ne pas être une femme, mais j'ai quand même la parole, donc je vais poser ma question. J'ai entendu le mot adaptation, c'était une allusion au fait de couper les hêtres au prétexte du réchauffement du climat. Moi, je vomis le mot adaptation, parce que adaptation, il faut bien savoir que c'est la stratégie du maréchal Pétain. L'adaptation, c'est l'ennemi est là, on n'y peut rien, on s'adapte. Et moi, je suis pour le contraire de l'adaptation, c'est la résistance, c'est-à-dire le général de Gaulle. On prend le maquis et on se bat. Donc vraiment, il faut, à chaque fois que vous entendez le mot adaptation, il faut vomir ce mot. Et un deuxième petit point, on a perdu la mémoire de l'ancienneté du problème des grands incendies. Relisez par exemple de Jean Dorst, 1965, avant que nature meure, chez Delachaux-Niestlé. Jean Dorst parle énormément des problèmes d'incendie et il cite un vieux sage grec, je crois que c'est Socrate qui disait « De mon pays, il ne reste plus que les os, toute la chair a coulé dans la mer à cause des forêts qui ont été enlevées ». Donc le problème existait déjà dans l'Antiquité et le problème en climat méditerranéen, c'est que quand la forêt brûle, la forêt protégeait un climat ancien qui ne peut plus se refaire parce qu'il n'y avait que le sous-bois qui protégeait ce climat. Et donc c'est pour ça que tout autour de la Méditerranée, ça s'est asséché. Et pour les forêts tropicales, il faut lire il y a 30 ans déjà, de Andrew Refkin, « La saison des feux ». Et donc Andrew Refkin signalait déjà le drame des incendies en Amazonie. Et c'était juste après l'assassinat du militant au Brésil, Chico Mendes. Donc, et Andrew Refkin, entre parenthèses, c'est aussi le premier qui a dit le mot anthropocène. Et sur l'histoire de Gaspard Dalens, le danger du mode de vie des bûcherons, je confirme. J'ai connu beaucoup de bûcherons dans la vallée du Rébenty, tout au fond de l'Aude. Les bûcherons avaient l'habitude de dire « aller à la forêt, c'est comme aller à la guerre ». Et ils faisaient allusion à la guerre de 14-18. Et enfin, je voudrais dire que quand on dit « c'est la faute au rouage économique, au problème économique et tout », on a entendu dans cette salle depuis hier beaucoup de gens dire « il faut être anticapitaliste ». C'est beaucoup plus grave que ça. Il faut être anticapitaliste, il faut être anticommuniste, parce qu'il faut être anti-industrie. Et moi, personnellement, je suis dans un mouvement écolo qui est anti-civilisation. C'est la civilisation qui est le problème. Et j'ai remplacé le mot « civilisation » qui vient de « civis », la ville. Donc, je suis contre la ville. J'ai remplacé ça par la civilisation de Silva, la forêt. Si on ne retourne pas à la forêt, si on n'abandonne pas la civilisation, on ne s'en sortira pas. Et hier, ici, dans cette salle, on nous a bien dit que la moitié d'entre nous, ici, dans cette salle, vont mourir d'ici 10 à 20 ans à cause de l'effondrement, justement, de la civilisation. Ouf ! Il faut que la civilisation s'effondre le plus vite possible parce que comme ça, ça réduira le nombre de morts. Et donc, par rapport aux actions, j'ai écouté la radio ce matin. Monsieur Pouyanné n'a pas été assassiné. C'est absolument dramatique. Et si les forêts brûlent, c'est parce que la tour totale à la défense n'a pas encore brûlé. Il faut vraiment être en état d'insurrection. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il paraît que l'insurrection va commencer en France le 5 décembre. Donc, armons-nous. Merci.
XVIIe édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Felipe 2019.